Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, vous proposent 9 documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. Une médecine à la pointe, robotique, intelligence artificielle et les figures modernes de la médecine montpelliéraine. Un documentaire proposé par Divergence FM. En première partie, c'est le professeur Arnaud Bourdin, président de la délégation à la recherche clinique et à l'innovation DRCI du CHU de Montpellier, qui nous parlera du pôle recherche du CHU. Puis, le médecin urgentiste Blaise Debien nous emmène sur le campus Arnaud de Villeneuve et la plateforme de simulation de la faculté de médecine animée par le Centre d'enseignement en soins d'urgence. Là-bas, nous attendent des robots patients utilisés par les étudiants en formation pour parfaire leurs gestes techniques.
Bonjour, professeur Bourdin. Nous vous sollicitons aujourd'hui. Vous êtes pneumologue, donc on imagine que depuis une année, vous êtes très occupé. Mais ce n'est pas en tant que pneumologue que nous vous contactons, c'est en tant que président du pôle innovation du CHU de Montpellier. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pôle innovation, comment il est né et quel est son rôle aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les centres hospitalo-universitaires doivent plus que jamais jouer leur rôle justement universitaire. Et qu'est-ce qu'on entend par le mot universitaire finalement ? Qu'est-ce qui différencie un CHU d'une autre structure de soins ? C'est bien le U, et le U, ça veut dire enseignement, bien entendu. Tout le monde imagine bien que ça veut dire qu'on accueille les étudiants en soins infirmiers, par exemple, les étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie, mais aussi la recherche. Et la recherche aujourd'hui, on s'en aperçoit très bien avec l'épidémie Covid à laquelle vous avez fait brièvement référence. C'est pas une fantaisie, c'est pas une lubie ou en tout cas un plaisir, c'est une obligation absolue parce qu'on s'aperçoit que l'évolution des choses peut justifier d'être capable de faire des efforts de recherche très intenses et très brutaux et avec une espèce d'obligation de résultats les plus rapides possibles. Et donc l'innovation, aujourd'hui, c'est le prolongement de la recherche, au fond. Hein. Une recherche vise à valider un concept. L'innovation, c'est surtout sa mise en application. Et ça, c'est quelque chose qui a été ressenti déjà il y a une vingtaine d'années en pratique, même un peu plus de temps que ça, peut-être 30 ans. Et ça a été mis en place progressivement au sein de nos structures pour essayer de passer, on va dire, d'un essai à un essai transformé, si on veut faire une analogie avec le sport que j'affectionne.
Qu'est-ce qu'on peut en avoir comme traduction pour le grand public ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Qu'est-ce qui est perceptible pour le grand public, pour les patients qui fréquentent les hôpitaux de Montpellier ?
Eh bien, je vais prendre un exemple très très simple. Il y a eu, par exemple, une recherche sur des thérapies cellulaires ou des thérapies innovantes. Vous avez entendu parler des CAR-T-cells, peut-être, qui sont des nouveaux traitements pour traiter les maladies du sang, hein, ce qu'on appelle les lymphomes ou certaines leucémies, des maladies terribles. Hein. Tout le monde a, je pense, une bonne représentation du fait que ce sont des maladies très agressives. Et il y a eu beaucoup de recherches pendant des années et des années et des années pour mettre au point ces nouveaux traitements qui sont des traitements très complexes. Je vais vous éviter les explications mécanistiques, mais qui ont des résultats inespérés, même chez les patients qui ont été résistants à toutes les chimiothérapies conventionnelles proposées. Eh bien, on est passé de cette recherche à une innovation, c'est-à-dire que c'est devenu accessible pour les patients et maintenant on peut traiter des patients avec des CAR-T-cells dans la routine, sans que ce soit dans le cadre d'un protocole, etc. Donc c'est vraiment une des illustrations. On peut prendre des illustrations totalement différentes. On peut aujourd'hui être opéré de surdité avec des poses d'implants cochléaires, qui jusque-là, pour certains, hein, qui refont l'audition chez des gens qui l'ont perdu, avec des techniques tout à fait nouvelles, et de choses très expérimentales, et bien aujourd'hui, voilà, c'est faisable du jour au lendemain.
Est-ce que les dimensions, les implications sociologiques, anthropologiques, j'ai envie de dire, sont prises en compte dans les recherches qui sont menées ?
Aujourd'hui, pour que une recherche devienne une innovation et qu'elle rentre dans l'éventail des possibilités thérapeutiques reconnues par l'Agence nationale de sécurité du médicament et éventuellement des dispositifs médicaux, et recommandée éventuellement, même mieux encore, par la Haute Autorité de Santé et de manière ultime pour qu'elle soit remboursée par l'assurance maladie, il y a tout un process à suivre et des critères à remplir. Vous pouvez l'imaginer qu'on ne va pas rembourser une technique si elle ne montre pas vraiment une technique ou un médicament, s'il ne montre pas de bénéfices notables ou d'efficacité vraiment fondée sur les preuves. Et certains outils d'évaluation sont aujourd'hui, maintenant, il y a un référentiel des outils qui sont reconnus par ces instances. Mmh. Et dans cela, il y a à peu près systématiquement des questionnaires centrés sur le patient. On appelle ça c'est un anglicisme qui veut dire patient reported outcomes, qui veut dire des critères reliés au patient et rapportés par le patient. Et là-dedans, il y a toujours des questionnaires soit de qualité de vie et en général associés des questionnaires éventuellement sociologiques. On sent qu'on s'approche de cette question de qu'est-ce que ça change vraiment pour vous aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. S'il s'agit que le patient ait un bénéfice de ces innovations, ou normaliser un scanner ou que sais-je, il ne s'agit pas de changer des examens, il s'agit de changer la vie des gens.
Vous êtes vous-même pneumologue. Dans votre rayon, si je puis dire, qu'est-ce qu'il y a comme chantier du côté des innovations ?
Alors, j'ai de la chance qu'on est dans une période vraiment très, très, très dynamique pour la pneumologie. Et pas plus tard qu'il y a 10 minutes, on était en train de faire le point justement sur toutes les innovations et recherches qui sont en cours dans notre domaine. Et c'est assez extraordinaire de voir qu'il n'y a pas un domaine de la pneumologie qui ne soit pas... qui ne fasse pas l'objet actuellement de nouvelles propositions. Celle qui me semble la plus marquante actuellement a lieu dans le monde de ce qu'on appelle la BPCO. Je vous rappelle que la BPCO, c'est hélas la troisième cause de mortalité dans le monde et personne ne sait trop bien ce que ça veut dire. Ça veut dire bronchopathie chronique obstructive et en général, ça correspond à ce que les gens entendaient par bronchite chronique, c'est-à-dire... un peu cette évolution vers de l'insuffisance respiratoire très souvent liée à une exposition professionnelle ou du tabac. Et il y a une vision un peu d'inéluctabilité parce que le poumon est abîmé, détruit par ce qu'on appelle des lésions d'emphysème. Et on est capable aujourd'hui, alors qu'il y a une vision un peu inéluctable, on est capable de, par des techniques très simples endoscopiques, c'est-à-dire sans ouvrir les poumons, sans opération chirurgicale, juste... par les voies naturelles, on arrive à réduire l'emphysème et redonner du souffle aux gens dans une maladie où on voyait les choses plutôt figées. Donc c'est des choses qui transforment la vie de certaines personnes, peut-être pas de toutes. On apprend encore à savoir qui sont les meilleurs candidats.
Alors là, on imagine que les recherches du côté de la pneumologie sont liées aussi à une situation pandémique, à une situation de crise. Est-ce qu'il y a toujours cette dynamique de crise ou de pression sociale ? Ou est-ce qu'il y a d'autres dynamiques à l'œuvre dans l'innovation médicale ?
Il est évident que malheureusement, cette pandémie monopolise beaucoup de temps, de personnel et de ressources humaines, financières, intellectuelles, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir que tout le monde croit vraiment à un lendemain sans Covid et que toutes ces recherches dans... ces autres maladies qui, elles, persisteront ne se sont pas arrêtées et même continuent et on commence à avoir même des nouvelles recherches et initiatives se développer, se lancer. Donc on est en train de voir, et c'est un message d'espoir aussi d'ailleurs, de voir qu'on est en train de dépasser ces problématiques.
Nous évoquons là une situation de pandémie qui est mondiale. Mais le pôle innovation donc, est ouvert bien sûr à ces dimensions-là. Il y a notamment une dimension européenne qui est mise en avant sur le site internet de l'hôpital qui est consacré, les quelques pages qui sont consacrées au pôle innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette dimension, cette collaboration européenne?
C'est un point qui me semble intéressant pour nos auditeurs, pour vos auditeurs, que de savoir que la médecine se mondialise. Parfois, nous recevons des patients en consultation qui sont inquiets d'être peut-être avec une maladie rare, ou en tout cas que les gens connaissent peu, et ils se demandent toujours dans quelle mesure, du fait que cette maladie soit rare, ils ne bénéficient que de l'expérience que du médecin qu'ils ont en face d'eux, qui en a peut-être vu deux autres comme eux. Et aujourd'hui, et ça c'est quand même un des énormes bénéfices de la mondialisation et de l'européanisation, nous partageons nos connaissances, et au lieu d'être face à un médecin qui a vu trois cas similaires, on est face à une communauté européenne et de plus en plus une communauté mondiale qui, en compilant ces expériences, vous propose une expérience sur 1000, 2000, 5000 patients. Et on a l'impression déjà qu'on a plus affaire à un expert parce qu'il est au courant non pas de 5 patients mais de 5000 et qu'il a des compétences autres parce qu'il est le porte-parole d'une expérience mondialisée et partagée. C'est exactement le cas de l'innovation également. En amont de ces partages d'expériences, l'Europe, à travers ses programmes, ses différents programmes de soutien à la recherche et à l'innovation, cherche à harmoniser les connaissances, mais aussi les pratiques, et de mettre en avant les différentes compétences qu'il y a au sein de la communauté européenne, pour arriver à des recherches avec des financements qui dépassent largement ce qui serait possible de faire sur le seul théâtre français. Mmh. Et donc, maintenant, on arrive à être, certains de mes collègues du CHU de Montpellier arrivent à être porteurs ou participants à de très grandes initiatives européennes avec des financements dédiés, et ce type d'initiative, je le crois, sont les prémices de ce qui permettra réellement des innovations dites de rupture, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un avant et un après ces éléments de recherche.
Alors, une autre dimension qui me paraît importante dans ce que j'ai pu voir sur vos pages consacrées au pôle innovation, c'est aussi un souci de communication avec le grand public, avec les patients notamment. Vous avez une publication en ligne, alors il y a 4 numéros, je crois, pour l'instant, ça naît petit à petit, qui s'adresse au grand public.
Oui, c'est une vraie nécessité, je crois, aujourd'hui, que toute cette histoire soit aujourd'hui bien comprise par la population. Le moment du Covid a été, on en a beaucoup parlé, je pense que c'est un terme que vous avez entendu, il y a eu une forme d'hystérisation de la science, c'est-à-dire qu'on a cru qu'on pouvait faire de la science en temps réel et communiquer tous les doutes, toutes les failles et toutes les inquiétudes qu'on peut avoir face à un protocole scientifique, et on a essayé d'aller tellement vite qu'on a été trop vite, c'est indiscutable, et on a affirmé des choses comme étant des vérités qui n'en étaient pas. Alors aujourd'hui, il faut comprendre que la démarche scientifique permet d'avoir des certitudes et non plus des doutes et non plus des prémices ou des intuitions. On a dépassé ce stade de la médecine un peu artisanale avec le médecin qui avait du flair, comme on disait, et qui avait à vue de nez trouvé le diagnostic brillant, un peu comme on peut le voir dans certaines séries télévisées. Aujourd'hui, on est dans une évaluation extrêmement rigoureuse, avec des tests très rigoureux qui font en général appel à des comparaisons, hein, un nouveau traitement ou une nouvelle prise en charge face à la prise en charge traditionnelle, éventuellement face à un placebo, je pense que les gens ont déjà entendu ces termes, et on évalue de manière très rigoureuse tout cela pour mener à des innovations dans lesquelles on peut avoir confiance. Et on peut avoir confiance parce qu'elles ont fait l'objet de toute cette validation scientifique. Et aujourd'hui, c'est une culture qui doit s'implémenter au sein de tous les personnels hospitaliers, depuis le moment où on arrive jusqu'au moment où on repart chez soi, mais qui doit aussi être à la disposition et à la portée de main et de compréhension de tous les patients pour qu'ils se sentent à l'aise quand on leur dit « on vous propose telle chose nouvelle que votre médecin ne vous avait encore jamais prescrit ou proposé ». Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans une telle chose si on n'a pas cette lecture de tout ça? Donc effectivement, nous voulons absolument, et je pense que c'est très éthique, que nous communiquions sur nos recherches, notamment lorsqu'elles sont positives, mais aussi lorsqu'elles sont négatives, car c'est tout aussi important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois qu'on progresse énormément dans ce domaine, et donc c'est une volonté très claire, à travers nos communications, d'aller vers le grand public.
Alors pour découvrir tout ça concrètement, je vous propose, pour terminer notre entretien, d'évoquer la journée du 29 mai qui est 2021, organisée à la faculté, qui s'appelle « La faculté écrit son histoire contemporaine ». Alors vous m'avez dit que vous n'êtes pas l'organisateur, mais vous y participez. De quoi s'agit-il ?
À Montpellier, nous avons l'immense bonheur d'avoir une faculté de médecine qui écrit ses 800 ans. Et malheureusement, là aussi, la pandémie fera qu'on écrira sa 801e année, en fait, ce qui en fait la plus ancienne faculté de médecine ayant été toujours en activité, certaines ayant eu des petites pauses dans leur activité. C'est incroyable, mais peut-on avoir une faculté centrée sur son passé, à la lueur de tout ce qu'on vient de dire? Et donc, l'objet de cette journée, c'est de... au contraire, bien montrer que cette capacité à avoir de l'histoire, et en étant conscient de son histoire, de comment s'est écrit l'enseignement, mais aussi la recherche, qui sont les domaines facultaires, comment on peut se projeter dans vraiment la faculté du troisième millénaire, avec tout ce que ça doit avoir de révolutionnaire, depuis l'enseignement jusqu'à la recherche et l'innovation. Et ce sera donc une très grande journée qui visera à montrer que bien que, ou au contraire, grâce à son ancienneté, cette faculté s'inscrit vraiment dans la médecine de demain et dans la médecine ultramoderne.
Illustration de ce que vous venez de dire, la première intervention qui sera proposée parle de la chirurgie qui devient simulée et robotisée. Et je crois qu'il y a des expérimentations à Arnaud de Villeneuve sur ces questions-là.
Alors, il y a absolument des expérimentations un peu partout. Il faut savoir que la nouvelle faculté de médecine de Montpellier possède tout un étage dédié à la simulation, où vous retrouvez vraiment un bloc opératoire avec la salle de réveil et la réanimation qui va avec, où tous les étudiants passent pour faire l'intervention idéale. Les réanimateurs, enfin les futurs, les étudiants réanimateurs et anesthésistes sont là aussi et on simule toute la séquence qui entoure ce moment, et ce qui permet de ne pas être et jamais dans l'idée de la première fois sur le patient. Hein. Et effectivement, on en arrive aujourd'hui à être capable d'opérer des patients, tout le monde le sait je pense maintenant, mais c'est toujours bon de le rappeler, des opérations assistées par des robots qui permettent des gestes plus précis, plus sécurisés, et donc probablement avec des conditions de sécurité augmentée, mais aussi avec éventuellement des bénéfices pour les patients. C'est le cas, par exemple, de manière très claire et maintenant assez connue du grand public, en urologie, par exemple, pour les interventions sur la prostate.
Tout de suite, on retrouve le médecin urgentiste Blaise Debien, qui nous emmène sur le campus Arnaud de Villeneuve et la plateforme de simulation de la faculté de médecine animée par le centre d'enseignement en soins d'urgence. Là-bas, nous attendent des robots patients utilisés par les étudiants en formation pour parfaire leurs gestes techniques.
Alors la simulation en santé, c'est quelque chose qui apparaît relativement, nouveau. Nouveau parce qu'on en parle beaucoup, parce que vraiment ça a été diffusé maintenant. En fait, on apprend simulation depuis Hippocrate. On va aller très très loin. La réflexion de la simulation, c'est quoi ? C'est mettre la personne en situation, puis après, on va débriefer. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de la simulation ? Ben, on agit. On agit et le fait d'agir va permettre de mobiliser toutes les connaissances que l'étudiant a finalement acquis et va mobiliser en situation. Alors ici, on est dans la salle commune où l'ensemble des étudiants vont pouvoir se réunir. Alors, ils se réunissent avant, ils se réunissent pendant et ils se réunissent après. Ce mannequin, il est, que vous allez voir, c'est Simane 3G. Simane 3G, il a plein de particularités. C'est qu'il est capable de retransmettre finalement tous les signes qu'un homme peut avoir réalisé, effectué. D'abord, dans le domaine relationnel, il est capable de parler. Il est capable d'avoir de l'émotion aussi, parce qu'il est capable de pleurer. Il est capable d'avoir des sécrétions. Il est capable d'être présent. Et l'évaluation de la conscience, elle va se faire parce qu'il ouvre les yeux, il cligne des yeux. On va même pouvoir évaluer ses réflexes pupillaires. Donc, vous voyez, c'est extrêmement pointu comme type de robot, en quelque sorte. Alors, le mannequin, lui, il est programmé. Il est programmé pour pleurer, vomir, avoir une langue qui gonfle, avoir des souffles particuliers. Tous les jours, je peux changer ce patient. Je peux lui faire un souffle de ressuscitement aortique, comme je peux lui faire aussi une insuffisance cardiaque avec un souffle majeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire dans le cadre d'une histoire virtualisée dans un espace finalement qui lui est virtualisé. Donc on est loin du patient. Alors ça, c'est assez chouette parce que le fait d'être loin du patient, ça veut dire qu'à ce moment-là, on apprend sans danger pour le patient lui-même. Voilà.
C'est ce que j'allais vous demander sur le site de la plateforme de simulation. On peut lire jamais la première fois sur un patient.
Et c'est aussi pour l'étudiant parce que l'étudiant plus libre, il sera, plus finalement, il sera ouvert, je dirais, à l'apprentissage. Le fait d'être face à un patient, eh ben, il peut y avoir des blocages et l'étudiant, à ce moment-là, n'apprend plus, à ce moment-là, voire même être mis en échec, et à ce moment-là, n'apprend plus du tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'en simulation, on ne va pas, des fois, mettre les étudiants en échec, mais finalement, c'est un échec relatif. C'est un échec plus intellectuel qu'autre chose. On apprend par nos erreurs, hein, ici. Et l'erreur, elle est tout à fait permise. Elle est même autorisée, elle est même favorisée.
Concrètement, l'étudiant, il va arriver, il va être face à ce robot patient qui est malade et il va devoir déterminer quelle réponse apporter à cette situation.
Ah oui, non seulement la réponse, enfin, il va déterminer la réponse. C'est-à-dire que ça va créer chez lui, ça va développer un raisonnement clinique qui lui permettra après d'échafauder non seulement un diagnostic, mais évaluer un risque, évaluer une prise en charge et l'esprit d'une prise en charge avec un environnement qui est celui de l'hôpital, c'est-à-dire avec les outils de l'hôpital.
Et donc, s'il doit lui administrer un médicament, par exemple, est-ce que le robot va réagir au médicament comme un patient?
Bien entendu, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que le robot, lui, il est finalement, il est programmé pour répondre en fonction du produit, mais en fonction d'objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que l'étudiant a réalisé le geste qu'il fallait bien, le mannequin, lui, va évoluer dans le bon sens. L'objectif pédagogique n'est pas rempli, le mannequin va à ce moment-là se dégrader jusqu'au moment où il ne faudra pas qu'il meure, parce que de toute façon, on ne veut pas aller jusqu'à l'échec complet de l'étudiant. Donc, parce qu'on est quand même... on a une éthique en simulation, et ça, c'est un principe de base. Alors, ça, c'est intéressant, parce que on s'est dit, est-ce que finalement notre humanoïde, il faut qu'il soit comme un homme ou est-ce qu'il soit ressemblant de l'homme? Je pense qu'il faut qu'il soit très proche du symbole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit tout à fait comme l'homme. C'est-à-dire que le fait que l'étudiant face au mannequin est obligé de faire une démarche de ressemblance. Il faut forcément que ça passe par une mentalisation. Et cette mentalisation, elle va être produite par cet écart un peu à la réalité vraie, quoi, en quelque sorte. Donc il ne faut pas que ce soit tout à fait vrai, il faut que ce soit de la simulation.
Alors là, on entre dans une autre salle où on a de nouveau des robots qui sont allongés sur des lits, des adultes, un enfant et peut-être même une femme enceinte, non? Qu'est-ce qu'on voit comme patient? Pouvez-vous nous expliquer?
Alors ici, vous rentrez un petit peu dans la caverne d'Ali Baba de la simulation. C'est l'endroit où on va stocker toute notre flotte. On a une femme qui est gestante. On va avoir ici un autre simulateur comme celui qu'on vient de visiter, là. On a un petit de 8 ans qui est capable, lui aussi, de pleurer, qui est capable de parler, qui va pouvoir ausculter, qui va pouvoir aussi être défibrillé et qui pourra donc nous faire un scénario. Enfin, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a une vingtaine de simulateurs de haute fidélité. On va avoir aussi des bébés, vous voyez, des tout petits bébés qu'on va pouvoir examiner, on va pouvoir faire des soins de cordon si on veut. On a un tout petit prématuré de 28 semaines d'aménorrhée qui est capable de cyanoser, qui est auscultable, qu'on peut intuber. En fait, tous les soins au bébé de l'enfant prématuré de 28 semaines, eh ben, on peut le faire sur ce mannequin-là. Voilà, vous êtes dans l'antre. Alors j'en profite pour vous dire qu'on a répondu à un appel à projet donc, dans le cadre du projet Muse, et on va être capable de projeter sur les murs pour créer de l'environnement, alors soit un bloc opératoire, soit le déchoc des urgences de la Péronie, où on ira ira filmer un accident de la voie publique sur l'autoroute une nuit en 360 degrés. L'idée étant finalement que l'étudiant apprenne dans ce contexte-là.
Comment on faisait avant d'avoir des plateformes de simulation ?
Eh bien, on apprenait sur le patient. Mais on avait le temps de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient, il arrive le matin, il sort le soir. Avant mon temps, le patient, il arrivait le lundi, il partait le samedi, ou voire même, il restait 15 jours, 3 semaines. Et on lui faisait à ce moment-là son check-up et tous les examens sur 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, le patient, il est chez lui. C'est-à-dire qu'il vient simplement pour des examens et tout est rassemblé le même jour. Finalement, ces centres de simulation sont venus, c'est imposé. On ne peut plus apprendre à faire des médecins performants comme avant. Après, l'évolution de cette technique pédagogique a évolué en fonction aussi de la technicité. C'est-à-dire qu'on a rajouté, bien sûr, du numérique, de l'informatique sur tous ces mannequins. Et à cette période-là, on a eu le centre d'enseignement de soins d'urgence, et bien un partenariat, je dirais, privilégié avec l'université. Et on a fait venir sur notre centre, sur le centre du CESU. Et cette collaboration s'est enrichie petit à petit. Et quand il a fallu, jeter les bases de la nouvelle faculté, et bien c'était tout à fait naturel qu'on retrouve le centre d'enseignement de soins d'urgence ici au sein de la faculté. C'est une belle collaboration entre le CHU et l'université.
Je m'appelle Tony Blot, je suis technicien en simulation de santé et donc je travaille sur cette plateforme en collaboration avec nos collègues du CESU, du CHU. Mon travail consiste à préparer les travaux, recevoir les étudiants, les formateurs et puis les assister dans leurs travaux et conduire en fait les simulations donc de manière technique on va dire. Et puis aussi apporter une assistance auprès des formateurs pour que les formations se passent au mieux.
Et donc c'est vous qui vous occupez, qui bichonnez tous les robots qu'on a vus aujourd'hui dans les salles?
Oui, effectivement, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de l'entretien, de la maintenance. Je pilote effectivement nos simulateurs de manière informatique mais je suis aussi l'écoute, l'assistant en fait du formateur pour qu'il puisse obtenir les résultats et les symptômes au moment où il le souhaite.
Donc c'est vous qui faites par exemple pleurer le robot ou qui faites s'emballer son rythme cardiaque s'il le faut?
Voilà, s'il le faut et sur sa demande. Il faut savoir qu'en fait on a des scénarios qui sont enregistrés, qui se déroulent on va dire de manière automatique, mais il y a aussi souvent en fait de l'improvisation parce que ce qui est important en fait c'est de pouvoir s'adapter aux gestes en fait de l'étudiant. Et puis il faut aussi dans notre métier avoir des connaissances sens médical de manière à pouvoir en fait comprendre quel est l'objectif pédagogique, où est-ce qu'il veut arriver. Oui, je dirais que c'est un beau métier quand même parce qu'en fait on reçoit toutes les disciplines, ça nous permet d'apprendre énormément de choses, on enrichit en fait nos connaissances tous les jours. Lorsque je suis dans mon métier, j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de faire en sorte que ces gens qui viennent apprendre la médecine, eh bien je contribue à faire en sorte qu'ils améliorent leurs gestes, qu'on améliore encore un petit peu plus la prise en charge des patients.
Alors là on change de salle et on passe dans le couloir, sur les portes sont affichés des panneaux, il y a écrit à ma droite atelier arrêt cardiaque, à ma gauche atelier intubation. Et là, on va dans une salle de débriefing.
La transformation, je dirais, d'un savoir en connaissance et de connaissance en compétence, ça se passe ici. Donc l'étudiant va pouvoir visualiser ce qui s'est passé dans l'autre pièce.
C'est-à-dire qu'il a été filmé pendant toute la simulation et qu'il revoit la vidéo après?
Alors il peut revoir la vidéo, il va pouvoir d'ailleurs revoir cette vidéo. Mais surtout aussi ses collègues qui sont restés ici, qui ont pu l'avoir vu pendant la séquence de simulation. Et l'étudiant, après la simulation, il va débriefer sur ce qu'il a fait. Ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est justifier justement tout ce qu'il a réalisé. Alors il se mémorise, il va pouvoir disséquer finalement ce qu'il a fait. S'il n'est pas capable de justifier, le formateur sera là pour rajouter le patch, le lien cognitif qui permettra à l'étudiant justement d'avancer dans son raisonnement. Et la philosophie qui est derrière, c'est de se dire, après être passé sur le patient, le vrai patient cette fois-ci, est-ce que finalement j'ai bien fait? C'est cette culture finalement du débriefing à la suite d'une action qui est apprise en centre de simulation. Alors là, ce qui se passe, la particularité ici, parce qu'il y a quand même des particularités, c'est que toutes les salles sont des vidéoconférences. Même notre salle ici de débriefing. C'est-à-dire que je pourrais simuler dans la salle de simulation et finalement débriefer dans un grand amphi en bas. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais on pourrait aussi faire des multiplex, c'est-à-dire simuler à Béziers et débriefer à Montpellier.
Donc des plateformes de simulation, il y en a une donc là à Montpellier, il y en a une à Nîmes. Est-ce que toutes les facultés de médecine sont dotées de plateformes de simulation ou alors est-ce qu'à Montpellier on est particulièrement bien doté ?
Alors, je pense qu'à Montpellier, on est particulièrement bien doté. C'est-à-dire que ce travail, je dirais, très ancien, c'est 30 années, je dirais, de travail collaboratif entre le CESU et la faculté, a fait que finalement, on a pu développer une structure qui est, à mon avis, une des plus riches de France. On a vraiment des kilomètres de temps d'avance, mais c'est le cas de le dire.
Et est-ce qu'il y a encore certains gestes techniques complexes qui sont toujours pas accessibles à la simulation ? Ou est-ce que tout est possible ?
Dans l'imagination, tout est possible. On a dit tout à l'heure, ce qui était important, c'est de développer finalement de la mentalisation. Il faut que ce soit assez authentique, il faut que ce soit pas forcément la réalité. Ce qui nous importe, c'est le raisonnement.
C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.